Le sujet que vous deviez préparer pour aujourd'hui, ils ont eu la possibilité de voir le texte?
Non,
c'est vrai. Alors, prenez le livre à la fin de la paracha de Chaye Sara, au chapitre 25. On va commencer à partir du verset 8 du chapitre 25. Voilà, je vous rappelle un des éléments que j'ai étudié les dernières fois, c'est que dans les premiers textes parlant de la différence d'identité entre Ishmaël et Yitzhak, Ishmaël n'était pas vraiment défini comme fils d'Abraham, mais comme fils de Hagar qu'il avait enfanté à Abraham. Et vous vous rappelez de cela? Et il y avait une première période dans l'histoire d'Abraham, nous l'avons étudié précédemment, je ne reviens pas en détail, où Abraham se nomme encore Abraham, où il est encore relié à l'ancienne identité araméenne des Hébreux de l'exil au Kasdim, et nous avons étudié le fait que dans toute l'histoire d'Abraham, il y a un effort de passer du niveau Abraham au niveau Abraham. Je ne reviens pas dans les détails, mais j'espère que vous avez ça en tête. Et dans cette première partie de sa vie, alors qu'il était déjà l'objet d'une promesse qu'il aurait un enfant, une postérité à partir de Sarah, il y a un fléchissement de la patience, si je puis dire, et entre-temps Ishmaël est né. Et nous avons étudié la dernière fois un texte du Zohar à ce sujet. C'est bien la dernière fois. Okay. Petite parenthèse, je vous avais fait lire aussi, je vous avais lu, un midrash du Yalkut Shimoni, qui indiquait le conflit entre la Perse et les Arabes à la fin des temps. Vous vous rappelez de cela? Je vous l'ai dit à l'époque, mais je veux quand même, à l'époque, il y a 15 jours, je veux quand même y revenir, c'est que lorsque vous rencontrez des textes de ce genre qui sont préfiguratifs de façon massive, alors le principe que nous avons, c'est de ne pas chercher des correspondances de détails. Il faut une préparation d'études extrêmement importante avant de voir dans les détails. C'est l'événement massif qui importe. Le fait qu'effectivement, pendant des siècles, on n'avait pas rencontré dans l'histoire ce conflit entre la Perse, aujourd'hui on appelle l'Iran, et les Arabes, à l'intérieur de l'islam même, et puis corollaire au retour des Juifs en Eretz Israël. Or, nous y sommes d'un point de vue historique, c'est tellement évident que c'est massif. Et ces jours-ci, vous lisez encore dans les journaux à quel point cette menace d'un conflit entre le Edom et ce qui se passe entre la Perse et les Arabes se profile. On lit dans les journaux qu'il est en train d'y avoir une concentration de navires de guerre américains et russes là-bas. Alors, c'est impressionnant, alors ne vous impressionnez pas. C'est ça que je voulais vous dire, et je reviens à notre problème. Et nous allons étudier maintenant un texte qui parle de la fin de cette histoire, du cycle historique d'Abraham, et où la Torah annonce une teshuva d'Ishmaël par rapport à Yitzhak, ce qui donc peut nous servir d'enseignement préfiguratif, encore une fois, d'une sorte de fin de cette rivalité entre Ishmaël et Yitzhak, et avec, bien entendu, la précédence d'Yitzhak, telle que cela est raconté dans le texte que nous avons étudié.
Ce que vous avez dit, est-ce que ça doit être compris dans le sens que les textes comme ça,
attends, parle plus fort, je pense.
Est-ce que les textes dont vous parlez, par exemple, le texte de l'époque Chimonie,
oui,
doivent être compris pour essayer de saisir qu'il y a des courants généraux et comprendre l'existence de ces courants, mais pas forcément les incidents qui sont cités?
C'est-à-dire, voilà, j'ai très mal mon livre. Alors, je ne me souviens plus dans quel de ces livres il a dit ça. Alors, je crois que c'est à la fin du Mishneh Torah, dans Ilkhot Melachim, okay, lorsqu'il parle du temps du Mashiach. Alors, il indique là, je le reprends dans Gerb Teman et dans le Moré Nebuchim, que les prophètes et les Hachamim, lorsqu'ils parlent du temps de ce que nous appelons Yom HaMashiach, n'ont jamais donné que des indications générales, globales, et qu'il y a un risque de, je dirais de superstition peut-être même, d'essayer de lire les correspondances, les analogies avec les prophéties et les explications des familles dans le détail. Et il dit très clairement, ceux qui seront en ce temps-là verront comment ça se passe. Mais, par exemple, nous aurons ici un thème très important, On est averti de deux choses, nous en étudions aujourd'hui. Qu'Ismaël finira par faire tshuva. Et la tshuva d'Ismaël, si vous avez suivi les textes précédents, c'est pas vis-à-vis du Dieu d'Abraham, c'est vis-à-vis d'Yitzhak. Ou, pour le dire en termes un peu plus contemporains, c'est pas une tshuva religieuse, elle est déjà faite en principe avec l'islam, où il revient à un monothéisme dégagé du meurtre, de l'idolâtrie et de la débauche. Hein? Dans la mesure où le musulman est un musulman authentique, il est dégagé de cela. Donc il a fait tshuva du point de vue des valeurs de la Torah, disons. À sa manière, il n'est pas nécessaire qu'il soit Israël pour être tzaddik. Il y a le concept d'Ishmaël tzaddik est possible, ce qui n'est pas le cas pour Esav. Esav disparaît. Et parce que Esav tzaddik, c'est Jacob, puisqu'ils sont les jumeaux en compétition d'identité. Cette année, on n'a pas étudié Jacob et Esav, vous l'étudierez d'autre part, mais il y a une différence de nature. Le conflit que nous avons avec l'islam n'a pas du tout la même issue que le conflit que nous avons avec la chrétienté. Encore une fois, la seule issue pour le repentir, la tshuva d'un chrétien, c'est de devenir juif. Tandis que pour Ishmaël, ce n'est pas nécessaire. Bon, ce n'est pas nécessaire d'ailleurs pour les chrétiens. Une élite d'entre eux, finalement, mais il suffit qu'ils soient noachides et qu'ils se dégagent de leur idolâtrie et qu'ils reconnaissent ce qui passe à travers Israël. Ce qui est dans leur théologie, mais elle est tellement pétrie de paganisme et d'antisémitisme qu'il faut épurer tout cela. Tout se passe comme si on est déjà en un temps où certaines consciences chrétiennes, très peu, mais ça commence à ressentir la nécessité de cette épuration, épurement. Mais il faudra du temps. C'est-à-dire, par rapport à la perception religieuse de l'islam, le christianisme, c'est du paganisme. Bon, je pousse les choses à la limite, mais pour que ce soit clair, quelle que soit la bonne foi des chrétiens qui sont persuadés d'être monothéistes, mais c'est une histoire qu'on a entre théologiens. Tandis que ce n'est pas le cas pour le musulman. Alors, la tshuva d'Ishmaël, c'est par rapport à l'antisémitisme, mot anachronique, c'est-à-dire la haine de la descendance d'Abraham par Yitzhak, que nous vivons encore. Alors, lorsqu'Ishmaël fait tshuva vis-à-vis d'Yitzhak, il s'appelle tzaddik, c'est ce que nous allons étudier dans notre texte. Ça va jusque-là. Hein? Donc,
Comment
se fait que... Plus fort, je ne sais pas de là que j'entends pas d'ailleurs.
Comment se fait que les relations entre Ishmaël et Yitzhak sont plus faciles que Jacob et Esav, alors que Jacob et Esav sont des frères et des jumeaux.
Et de la même matrice, de la même mère, oui. Eh bien, si tu veux, on peut le comprendre comme ça. De la même manière que Abraham et Lot, rappelez-vous au début de l'année, on a un peu parlé de ça, okay. Lot, c'est un Abraham échoué. C'est l'échec d'Abraham. La Esav, c'est l'échec de Jacob. Et quand Jacob réussit, alors il s'appelle Israël et Esav disparaît. Vous vous rappelez de cette alors que Ishmaël, c'est cette autre lignée d'Abraham dont on aurait pu se passer. Vous vous rappelez Zohar. Mais qui vient de la faiblesse de la confiance de Sarah. Est-ce qu'il y a une économie de nécessité de ce retard pour laisser la possibilité à la lignée d'Ishmaël d'apparaître et de se développer? C'est un autre sujet. Mais le Zohar est très clair. On aurait pu s'en passer. Et toutes les tzarot qu'on a vécues, qu'on vit encore avec Ishmaël, c'est pire que ce qu'on a eu avec Esav. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Quand j'arrivais en France à peine, mon premier maître Ashkenaz, c'était un grand, Jacob Gordin, c'est comme un Libraha. Vous avez peut-être entendu parler de lui, mais ça m'étonnerait. Il est mort juste après la guerre. Et j'étudiais avec lui, et on étudiait, d'ailleurs au début, vous ne connaissez pas ces préhistoires-là, quand le monde Sfarad et le monde Ashkenaz s'est rencontré, on n'arrivait pas à se comprendre en hébreu, à cause de la différence de prononciation. Bon, il a fallu du temps pour s'initier après cette année. Maintenant, vous avez des Ashkenazim qui parlent comme les Sfaradim, alors on les comprend. Et vous avez des Sfaradim qui parlent à peu près comme les Sfaradim, alors les Ashkenazim comprennent. Mais parce qu'il y a la prononciation israélienne. Et alors, je me souviens qu'au début, et moi je ne comprenais pas du tout, parce qu'il avait une prononciation ashkénaze russe, mais alors de derrière les pas bouquets. Et alors, au début, pour pouvoir se comprendre, on se comprenait par écrit. Parce que écrit, on comprenait les mêmes mots. Mais où est-ce que je veux dire? Bon, c'est passé assez vite, mais stop. Alors, on a étudié un passage de l'Agada, c'est Shefor Hamatcha El Agoïm, Hashem Lo Yedaroucha. Et il me dit, ça, c'est pour Ishmaël. qui a Khaled Yaakov et Naveush. Moi, j'arrivais des pays d'islam et on avait une habitude de penser, je ne dirais pas une tradition, une habitude de penser que l'antisémitisme d'Aesav, donc des chrétiens, est pire, était pire que l'antisémitisme d'Ishmaël, donc de l'islam. Il m'a dit, tu ne sais pas lire. Et c'est vrai qu'il avait raison d'ailleurs. Alors il m'a expliqué une chose, entre autres, qui est très importante. C'est que l'antisémitisme de Esav a accompagné la galoute. C'est clair. L'antisémitisme chrétien, c'est l'antisémitisme de la galoute. Quand je dis antisémitisme, c'est anachronique, mais je veux dire anti-judaïsme. Mais celui d'Ishmaël apparaît avec le retour, et c'est beaucoup plus grave. Est-ce que c'est clair? Donc,
Pourquoi c'est plus grave?
C'est le verset qui a Khal et qui a Akov et Naveu et Shem. Ça veut dire que, je traduis, car il veut dévorer Jacob et détruire Naveu, sa demeure. Hein. Ça veut dire que tant que nous étions en exil dans l'islam, des dhimmi, connaissez ce mot que ça veut dire, et alors les protégés du sultan, hein, c'est-à-dire les esclaves, leur volonté de détruire Yitzhak, la descendance d'Yitzhak, était camouflée. Mais quand le vrai problème arrive, qui est l'héritier d'Abraham sur la terre d'Israël, alors là ça se déclenche. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Est-ce que c'est clair? Finalement, les chrétiens ont renoncé. Ils n'ont pas renoncé dans leur cœur, mais ils ont renoncé à réclamer Israël comme terre sainte chrétienne. Ça a échoué. Et, c'est irréversible, ils savent très bien que c'est pas possible que les armées chrétiennes fassent des croisades pour reconquérir l'Empire des Croisés. Okay? Enfin, le Royaume des Croisés. C'est trop tard, c'est fini. Donc ils essayent d'aider les Arabes. Il y a un midrash dans les midrashim des Yéménites que Esav a demandé l'aide d'Ishmaël pour détruire Jacob et qu'Ishmaël a demandé l'aide d'Esav, c'est l'inverse. Ishmaël a demandé l'aide d'Esav pour détruire Yitzhak et que Esav a demandé l'aide d'Ishmaël pour détruire Jacob. Et finalement, ça n'a pas marché. Mais qu'effectivement, la rivalité entre Yitzhak et Ishmaël, c'est la terre. Alors Ishmaël a besoin d'Esav. Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. Alors que la rivalité entre Jacob et Esav est spirituelle. Et pour ça, Esaïe a besoin d'Ishmaël. Et alors, finalement, ça n'a pas marché. Vous avez un verset où Esaïe dit « Arriveront les jours de deuil de mon père, Isaac, et je tuerai Jacob. » Vous vous rappelez ça? Et ça veut dire que tant que Isaac est vivant, Esaïe ne peut rien contre Jacob. Et tant que Jacob est vivant, Ishmaël ne ferait contre Yitzhak. Et c'est l'alliance entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Parce que, je crois que nous avons étudié ça ici, les Sfaradim ont la typologie d'Yitzhak chez Ishmaël, alors que les Ashkenazim ont la typologie de Yaakov chez Esav. Et effectivement, la force nationale d'Israël vient de Jacob, elle vient de Joseph, fils de Jacob, alors que la force spirituelle d'Israël vient de Yitzhak. La Kabbalah et Sfaradim. Ça a été fondé par les Ashkenazim. Je pousse les choses à la limite. Mais... Alors, ce qui est clair, c'est que Yitzhak aide Jacob à triompher d'Ésaü, et Jacob aide Yitzhak à triompher d'Ishmaël. Et c'est ça que nous vivons, et c'est comme ça que ça se passe. Tzahal, l'État d'Israël. On les a aidés, je dois dire. Mais enfin, sans les Ashkenazim, il n'y aurait pas eu un État juif. Alors que sans les Sfaradim, il n'y aurait pas eu la Kabbalah. C'est clair. Et le christianisme aurait été dangereux contre Israël. D'ailleurs, il commençait à avaler le monde Ashkenaz, le christianisme. Alors la Kabbalah est intervenue, a fait sauter tout ça. De la même manière que Ishmaël empêchait le peuple d'Israël de s'installer sur sa terre. Alors les Ashkenazim sont venus en appui. Ça vous paraît bizarre tout ça, mais c'est simple. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que c'est clair? Donc. Bien. Et alors, je reviens donc à notre... j'ai pas compris pourquoi, à partir de ta question, j'ai parlé d'Ishmaël.
C'est quoi la question à
montrer? Ah, c'était laquelle? Rappelez-moi.
Comment
ça se fait qu'on n'ait
plus de
facilité? Ah, ça y est, oui. Je vous l'ai déjà la dernière fois, il faut bien le comprendre. Et moi, j'ai vécu cette vie-là, dans puisque je suis originaire d'Algérie, c'est un pays d'islam. Je vais peut-être vous raconter que au mariage de ma sœur, un des invités d'honneur à la synagogue, c'était Mufti, qui était assis à côté de mon père. À leur fête, ils nous ont envoyé leur gâteau. On ne les mangeait pas, mais et à nos fêtes, on leur envoyait les leurs, ils les mangeaient. Les nôtres, ils les mangeaient. C'est-à-dire qu'un musulman cachère, c'est un sadique. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Ça n'a rien à voir avec un chrétien. Pour la sensibilité de lui, c'est, on est dans le même monde. Pur et impur, c'est les mêmes catégories avec les musulmans. Simplement chez eux, c'est approximatif, ils ont une cache-route approximative. Ils ont une Nida approximative. Ils ont une Torah approximative. Okay? Alors que chez les chrétiens, c'est l'inverse. Quand ils disent pur, c'est impur, et quand ils disent impur, c'est pur. Réfléchissez au mariage et vous comprenez à quel point on est à l'envers, un chrétien et un juif. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est grec, toutes leurs histoires. C'est païen. Et habillé d'un enrobement biblique. Et alors, et je vais raconter une anecdote. Juste après la guerre, j'ai rencontré un de mes anciens condisciples du lycée, un arabe. Il y en avait très peu, mais il y en avait quelques-uns. Alors, on s'est rencontrés, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, rescapé de la guerre. Et alors, il m'a dit, bon, avec son accent inimitable, j'ai oublié l'accent patawette, mais alors c'est pire. Il me dit, alors tu as choisi la France. Il dit, d'où tu sais que j'ai choisi la France? Il m'a dit, écoute, si j'ai un conseil à te donner, si tu veux rester en vie, quitte l'Algérie. Il m'a dit, non, j'ai pas choisi la France, j'ai choisi Israël. Il m'a dit, on se parle plus. Vous avez compris le vous comprenez avec ça? Ça veut dire que c'est des approximations de sadikim de la Torah à travers leur religion. Mais c'est la haine du juif en tant qu'héritier d'Abraham. Est-ce que c'est clair ce juif-là? Et ça se dévoile par rapport à l'héritage. Et l'héritage, c'est la paix. C'est ce qu'on a étudié. Alors que le problème de Jacob, Isaïe, tout à fait autre. C'est le ciel. C'est autre chose. Voilà.
Ce qui fait que les séparatistes ne sont pas armés pour combattre
le christianisme. Voilà. Ils ont une soupape de, peut-être dangereuse, mais certaine, c'est la chassidoute. C'est-à-dire que les Ashkenazim ont secrété des anticorps pendant 2000 ans vis-à-vis de ces studios. Les Sfaradim arrivent là-dedans, ils sont démunis, ils tombent là-dedans, vulnérables. Okay? Alors ça vous fait comprendre pourquoi tellement de Sfaradim se réfugient chez les Hasidim. C'est clair? Bon, là il y a le danger de la superstition que n'ont pas les Hasidim Ashkenazim. Parce qu'ils sont vaccinés. Vous comprenez? Les Sfaradim sont en danger. Vous avez compris un peu tout ça. Par exemple, l'adoration du tzaddik. Alors, chez un Ashkenaz, c'est cachère. C'est vraiment du respect. À un très haut niveau. Alors, chez un Sfarad, ça risque de devenir la superstition. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je vais dire une blague qui n'est pas tellement une blague. Le rabbi, c'est une babiche, on l'appelle l'admour. C'est de l'admoration. Mais entre l'admoration et l'adoration, vous avez compris.
Mais de l'autre côté, Manito, vous dites que la Kabbalah est du monde séparé. Que la façon de démonter le monde chrétien, c'est quand même la Kabbalah.
De préserver la Torah, bien sûr, en général. Il n'y a pas de chrétien, il y a des philosophes. Et alors?
Il dit quand même que le monde chrétien, finalement, peut être libéré du problème chrétien par le monde séparé.
Bien sûr. Voilà, j'ai remarqué une chose. Il n'y a jamais eu de controverse judéo-chrétienne tenue par les Ashkenazim. Il y a une panique. Il n'y a jamais eu qu'avec les Sfaradim. Parce que les Sfaradim sont décontractés vis-à-vis des chrétiens. Les vrais Sfaradim, je ne parle pas des Sfaradim assimilés à la culture occidentale, qui sont fascinés. Ça, c'était la question précédente. Parce que, pour un Ashkenaz, le drame, c'est que le chrétien, c'est Ésaü à côté de Jacob, lequel des deux est Israël. C'est l'autre. Tandis que pour un Sfarad, c'est une espèce d'occidental exotique, païen, et qui, complètement fou, se prend pour Israël. Je ne sais pas si vous voyez la distance. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, pour un Sfarad, l'autre, c'est le musulman, c'est pas le chrétien. D'ailleurs, je me souviens, encore dans ma jeunesse, quand on parlait des Arabes, on ne disait jamais les Goïms. On disait les Arabes. On disait les Goïms quand il s'agissait des chrétiens, tu te rappelles aussi. On disait les cousins, même. Et alors, pour revenir à ta question, À partir du moment où le musulman est épuré de l'antisémitisme, c'est l'homme le plus proche du juif, de toute la terre. Mais ça, c'est une promesse pour l'avenir. Vous comprenez? Parce que pour le moment, c'est l'ennemi intime. Est-ce que c'est clair?
Et que dire des forts rabbiniques qui étaient à l'époque, qui étaient honorés?
Oui.
Dans les pays en Espagne, par exemple, c'est-à-dire
deux. Eh bien, tant que les sparadimis étaient en monde musulman, ils tenaient le coup. Dès qu'ils sont passés en monde chrétien, ils se sont évanouis et l'inquisition est arrivée. Il faut savoir que l'inquisition a frappé une communauté de sparades assimilée. Il y avait un reste de sparadimis juifs. Mais l'immense majorité était des christianisés. Et pourquoi il y a eu tellement de maranes? Et est-ce que c'est clair? Et vous savez, l'identité, la culture sfarade n'a jamais été espagnole. Elle a été arabe. Elle a été judéo-arabe. Et ensuite, ça a été traduit dans une langue chrétienne quand les chrétiens ont vaincu les morts, les mauresques, et se sont installés à leur place. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Il n'y a jamais eu de sfaradisme espagnol, ça c'est une traduction. Le sfaradisme est arabe. Regardez le paradoxe, okay? Quand on dit Sfarad, on voit l'Espagne. Mais c'est second, c'est de l'arabe traduit. Okay? Bien. Alors, on enchaîne? Ou on embraye? Alors, là nous allons voir, donc, je vous l'avais indiqué très brièvement tout à l'heure, que Ishmaël va changer de stature, et entre-temps, il va faire tchouva. Parce qu'entre-temps, il a fait tchouva. Et alors, encore une fois, pour aller vite, il ne s'agit pas de tchouva vis-à-vis des trois grandes valeurs qu'on a étudiées avec les midrashim des maîtres de valeur Bishmon Bokhay, vous rappelez? Bilo Arayot, ça c'est l'islam. Il s'agit de la tchouva vis-à-vis d'Itsrak. C'est bon compris? Top. Et alors, nous allons avoir cette surprise qu'effectivement, la scène est à Hebron. Je vous avais indiqué la dernière fois, il me semble, que là encore, on est impressionné. C'est un gouvernement, Maharach, qui a installé Kiryat Arba à côté de Hebron. Et c'est pas le Likoud qui a fait ça. C'est là-bas que ça se met en place, cette scène que nous allons étudier. On n'a pas installé de ville juive ni à côté de Shrem, ni à côté de Jéricho, à Hebron. Comme quoi il y a une programmation. Et il ne faut pas croire que l'état-major de l'armée israélienne étudie la Kabbale. Et d'abord, je n'en sais rien. Mais ils font, semble-t-il, ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est très impressionnant, d'ailleurs. Alors là aussi, il ne faut pas chercher les détails. Alors, vous prenez à partir du verset 8. On va nous décrire, c'est un verset qui va nous décrire la mort d'Abraham, et la scène sera l'enterrement d'Abraham à Hebron, et c'est à l'enterrement d'Abraham à Hebron qu'Ishmaël fait tchouva. Alors, prenez le verset 8, et on commence à le traduire, « Vaïva, il expira. » Je traduis d'abord en français, après j'expliquerai avec Rachidah. « Vaïva, il expira. » Vayamot, il mourit, Abraham, Beseva Tova, en bonne vieillesse, Zaken, Zaken, c'est la vieillesse de la sagesse, Ken, Vesavea, Beseva Tova, c'est la vieillesse de l'âge, Zaken, Vesavea, rassasié de la vie, c'est moi qui ajoute de la vie, on dit en général rassasié de jour, okay. C'est un terme très important, un tzadik, n'a aucun regret de ce monde-ci quand il quitte ce monde-ci. Il en a pris ce qu'il fallait en prendre. Vous connaissez ça. Et Vaya Asef El Amar, et il fut ajouté à son peuple. Ça, c'est la fin du verset, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est un sujet pour lui-même, une expression que finalement les traductions traduisent, je ne sais pas, vous avez un texte français sous les yeux, non, je pense que pas. Comme si ça voulait dire il mourut. Et vous voyez qu'on aurait trois expressions apparemment synonymes, mais ici le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a expliqué que c'est une des expressions qui montre l'indication d'un autre monde dans la Torah. Vayah Sefer Amar, il fut ajouté à son peuple, où? Là-haut, ou ailleurs. Est-ce que c'est clair? de ces indications que la Torah parle dans notre olam, qu'on rejoint après la mort. Mais ça, je laisse de côté pour le moment. On va prendre les deux premiers mots. Les deux premiers mots, ce n'est pas des synonymes. Vaigra, vayamot. Il expira, il mourut. Vayamot, ça concerne ce qui arrive au corps. Vaigra, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Et nous allons, c'est clair, j'en dirai pas plus, nous verrons un rachis important dans un verset qui suit. Et la Torah n'emploie le terme de Vaigra que lorsqu'il s'agit de tzadikim. Gria. Que lorsqu'il s'agit de tzadikim, et c'est l'indication qu'il s'agit d'un tzadik, et ça veut dire qu'il a vécu tout le temps qui lui était donné à vivre dans ce monde-ci. Il n'est pas mort avant son temps. Alors il y a Vaigra. Et Vayamot, c'est qu'il est mort. Vous avez compris ce que je comprends cela. Au moment de la naissance, est donné à chacun un temps de vie. C'est clair. Et puis il y a Maï Amalé, le Tilik, okay? Et Malot Yemechaya. Le Tzadik est celui qui a vécu tout son temps de vie, à la seconde près. Alors quand c'est arrivé, on dit de lui que Vayuva, c'est un Tzadik. C'est clair. Le cas privilégié par excellence, c'est Moshe Rabbeinu, qui a vécu 120 ans au jour près. Le jour de sa mort était le jour de sa naissance. Vous savez ça. Donc, les autres tzadikim ont un temps de la programmation de la loi des temps que Dieu leur donne pour la vie terrestre, et s'ils vivent tout leur temps, alors on dit qu'il y a eu Gria. L'âme s'est séparée du corps au temps prévu à la naissance. Or, l'habitude de Rashi, c'est d'expliquer un mot qu'il y a expliqué la première fois qu'il apparaît dans le texte de la Torah. Or ici, Rashi va attendre que ce mot soit employé à propos d'abord d'Ishmaël pour expliquer qu'est-ce que c'est Gria. Premier étonnement. Alors prenez un peu plus loin. Au moment de la mort d'Ishmaël, le verset 17. Et voici Ishmael, et voici les années de la vie d'Ishmaël. Nous avons la même expression que pour Abraham. Regardez Rashi sur la Gloire, dans le verset 17. Qu'est-ce que dit Rashi? La Gloire, vous l'avez sous les yeux? L'on aimera Gloire et la Betzadiki. On emploie le terme de Gloire, en français on dit expiré, comme j'ai dit, que pour Betzadiki. Alors non seulement Rashi ne l'explique pas à propos d'Abraham, mais comble de l'étonnement. Il explique à propos d'Ishmaël et il nous indique qu'Ishmaël est tzadik au moment de sa mort. Ça c'est joli, hein. Il faut que Ishmaël arrive au moment de sa mort pour être tzadik. Et apprendre à les débarrasser. Vous suivez? Alors nous allons reprendre le verset 8. Il y a un étonnement dans le verset que Rachid d'ailleurs a signalé, que le Midrash étudie. Je reprends le verset. Vaïkvar vayamot Abraham beseva Torah. En bonne vieillesse. Alors on pose la question, comment Abraham peut mourir en bonne vieillesse alors qu'il y a le problème qu'il y a entre Ishmaël et Yitzhak? Alors que les deux enfants, les deux lignées d'Abraham sont dans la haine totale, il peut mourir tranquille. C'est donc qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est clair? Donc, verset 9. Vaïk beru oto et l'enterrèrent Yitzhak ve Ishmaël bana. Yitzhak et Ishmaël, ses fils, ou El Me'arat à Marpella, à la caverne de Marpella, Elf de Ephron, au champ de Ephron Ben Sohar, Sira, Ahiti, l'Achitéen, Asher Alpenimambe, Ahem, Asade, Asher Kana Abraham, et Benéché, le champ qu'avait acquis Abraham des enfants de Ché, Shama, Kouvar Abraham, Vesara Ishto. Là-bas a été enterré Abraham et Sarah, sa femme. Je continue encore à verser et je reviens après sur notre question. Vaïli, il arriva, Ahare Mot Abraham, après la mort d'Abraham, Vaïbarech Elohim et Yitzhak, Dieu bénit Yitzhak, Beno son fils, Vaïeshev Yitzhak, et Yitzhak s'installa, Yishu, Ember la Haïroï, à côté du puits qui s'appelle la Haïroï, le puits où Dieu s'était révélé par un ange à Agar. Et donc c'est très lié. Avant d'aller plus loin, nous avons des Midrashim qui expliquent à propos du remariage de Sarah après Sarah, du remariage d'Abraham après la mort de Sarah, que Abraham a eu une femme qui s'appelait Ketura, et le Midrash indique que Ketura, c'est Agar qui a fait Tchoua. Donc, vous voyez, ce sont des choses auxquelles on réfléchit peu. Il y a une issue importante, Agar fait Tchoua. Agar, la matrice d'Ishmaël, et Ishmaël fait Tchoua. C'est lié. Je vais ouvrir aussi une parenthèse. La Kabbalah enseigne qu'il y a entre la mère et le fils un code de communication plus ou moins secrète, plus ou moins inconsciente, mais qui fonctionne. Et lorsque ce code ne fonctionne pas, en général à cause des troubles de la mère avec son père, avec le père, avec son mari, alors l'enfant est malade. Et ça, c'est une indication qui est importante pour la psychologie en général. Ce code est très fort jusqu'au sevrage, mais il continue à fonctionner toute la vie. Et lorsque c'est détraqué, alors ça explique énormément de courts-circuits pathologiques entre le fils et la mère. Bon. Alors, j'utilise donc, c'est vrai aussi entre la mère et le père, mais d'une autre manière, il y a un code. Je ne sais pas si certains d'entre vous font des études de psychologie ou de médecine. Enfin, si c'est le cas, étudiez cela, c'est les médecins compétents. Et alors, on voit ici que la tchouva de Hagar est indiquée corollairement à la tchouva de Ishmaël. Alors, on peut le comprendre de deux manières, et je vous dirais celle que j'ai tendance à préférer, mais soit que la tchouva d'Ishmaël a été la cause et la tchouva de Hagar va avec, soit la tchouva de Hagar a été la cause et la tchouva d'Ishmaël va avec, j'ai tendance à penser, deviner, la première ou la deuxième. Non, la deuxième. C'est parce qu'il y a eu tchouva chez Hagar qu'Ishmaël a fait tchouva. Réfléchissez bien à ça. Okay? Ça veut dire le profil, l'identité de la mère est énorme par rapport à la destinée du fils. Il faut le savoir. Donc,
Rachid dit que c'est Yitzhak qui est allé chercher
le lion. Yitzhak est allé
chercher
le lion. Oui, et il savait où il allait. Hein. Il allait chercher qui? Pour lui faire partout. Hein. Il savait où il allait. Ça veut dire, il y a donc ici un code, si on peut dire, quand les événements arrivent, ils arrivent. Bon, alors le fait que ce soit Yitzhak qui réinstitue Agar est très important. D'ailleurs, découle de là une très grande règle. Quand le père est veuf, c'est le fils qui doit choisir une femme pour le père. Je ne sais pas si c'est halakha, okay? Vous savez ça. Parce qu'on n'a pas le droit de rester sans femme. Et les grands tzadikim, il y a des cas particuliers. Hein? Les cas particuliers de prishut, ce sont des cas particuliers. Alors, ne reste pas veuf, quel que soit l'âge. Hein? Et on peut dire, bon, il peut prendre une infirmière, mais ça n'existe pas, une infirmière qui vit avec un homme sans être sa femme. Vous comprenez ce que je dis, okay? Ça va très loin, c'est pour vous. Ça trompe personne, okay? Une femme ne peut pas entrer dans l'intimité d'un homme si elle n'est pas sa femme. Et par conséquent, on lui donne une autre femme. Et dans ce cas-là, c'est effectivement, ça se relie à cette règle, c'est le fils qui doit choisir une femme pour son père devenu veuf. Mais il y a là une sensibilité juive qui peut paraître étonnante, paradoxale, à la sensibilité occidentale. Okay? La verka, les psychologues savent, c'est comme ça que ça doit marcher. Sinon, ça ne marche pas. Alors, je reviens au quand je vous dis les psychologues qui connaissent, j'allais dire la psychologie. Je reviens donc au problème. C'est qu'il y a un lien. Signalez-le entre eux, la tchouva d'Ishmaël et ce qui se passe chez Agar. Et par conséquent, en fin de compte, tout ce qui était catastrophique depuis le début, lorsque Sarah a choisi Agar pour Abraham, va finir par s'arranger et se résorber. Entre-temps, on l'a payé cher, comme on dit le Zohar, mais on est en train d'étudier le happy end, comme disent les latins. Alors, je reviens donc à notre problème. Prenez Rashi maintenant. Alors, sur le verset 9. Est-ce qu'il y a un micro de Dolot de Brigitte ici? Bon, on en donnerait tout à l'heure. Alors, Rachid sur le verset 9. sur Yitzhak Vishmael. Alors il cite le Bereshit Rabba et il dit Mikan, she'asa Ishmael tshuva, ve'olich et Yitzhak lefanav, ve'hi sevatova, she'nehemra ve'abraham. Alors je traduis le fait que le texte porte Isaac avant Ishmael, c'est le signe qu'Ishmael avait fait tshuva, puisqu'il reconnaît la préséance de Yitzhak, et c'est ça la bonne vieillesse dont on a parlé pour Abraham. Est-ce que c'est clair? Bon, alors d'où peut-on savoir cela? Ben, de l'événement lui-même. Le Midrash explique, Ishmael revient d'Égypte au moment de la mort d'Abraham pour participer à l'enterrement d'Abraham à Hébron. Et c'est Yitzhak qui est à Hébron. Ça veut dire qu'Ishmael reconnaît que Yitzhak est chez lui à Hébron. Alors le jour où les Arabes reconnaîtront que Hébron appartient à Israël, on sera là-dedans. Vous voyez pourquoi c'est important que Kiryat Arba soit. C'est clair. Et qu'est-ce qui empêche? Ben, c'est pas tellement les Arabes, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui ne veulent pas que Hébron soit israélien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais au moment de la libération de Hébron, eh bien les Arabes s'attendaient à ce que Hébron devienne juif. D'ailleurs, ils ont eu tellement peur qu'une bonne partie est partie. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait aux Juifs dans les années 20 et ils s'attendaient à la vengeance. Alors, Moshe Dayan a tout fait culbuter. Mais, en tout cas, il y a un signe. C'est que le petit-fils du mufti de Hébron, du mufti du temps des persécutions des années 20, s'est converti au judaïsme, comme vous le savez. Il a vécu à Tarba et même qu'il a participé aux derniers événements. Alors, nous vivons des choses assez extraordinaires. Vous savez pourquoi c'est extraordinaire? C'est parce que c'est très simple. Il y a un programme et il se réalise. Encore une fois, la question de tout à l'heure, les détails, on ne peut jamais savoir à l'avance. Mais finalement, ça se dévoile. Alors tout ça, ça peut nous donner beaucoup de patience pour les années qui viennent. Alors on ne sait pas si c'est des jours, des semaines, des mois, des années, mais voilà, l'issue, elle est là. Alors il y a une grandeur dans le fait que Kiryat Arba a été fondée, je dis bien une grandeur, et qu'elle soit habitée par des juifs. Mais ils ont un problème tellement difficile à résoudre que parfois il y a des expressions d'attitude qui sont trop dures, peut-être. J'en dirai pas plus, c'est pas le sujet. Mais il faut savoir que c'est des grandes neshamot qui sont en train de mettre en place ce que la Torah parle, ce dont la Torah parle dans ce texte. Et ce qu'on peut découvrir. Donc tout ça c'est hermétique. Au ministre de la police, il n'arrivera jamais à comprendre ça, parce qu'il ne comprendra jamais pourquoi il y a Kiryat Arba, et pourquoi c'est son parti qui l'a construite. Vous voyez qu'il y a une hashgacha, hein, mais je crois que c'est le statut, elle travaille malgré nous. Et ça, je pourrais vous parler de ce malgré nous pendant des heures. C'est toute l'histoire d'Israël qu'il faut reprendre. L'histoire d'Israël est ce qu'elle est malgré les juifs. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Bon. Il y a aussi une raison pour ça, mais c'est un autre sujet. Alors voilà donc que nous avons en place les éléments de la fin du récit. Et vous voyez comment Rashi nous donne avec une sobriété extraordinaire les indications nécessaires, indispensables, centrales pour mettre le récit en place. C'est-à-dire lorsque Ishmael arrêtera sa revendication d'héritage vis-à-vis d'Israël, alors il est tzadik. C'est clair. Ça veut dire qu'il est, du point de vue de... Vous rappelez l'expression de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Beto Sheloto Tzadik, le Tzadik c'était Abraham. Du point de vue de sa relation au Dieu d'Abraham, il est déjà dans le principe Tzadik, l'islam. Encore une fois. Alors je ne dis pas l'islam des assassins, des débauchés et des superstitieux, ça c'est pas vraiment l'islam. Ça, c'est Ishmael qui n'a pas encore fait sa tchouva que les Arabes appellent islam. Mais tant que il est anti. Alors aujourd'hui, il faut dire anti-israélien, il n'y a pas d'autre mot. Tant qu'il est anti-Yitzhak, alors il est encore ce fils d'Agar que Agar avait enfanté à Abraham. Mais dès qu'il fait tchouva vis-à-vis d'Yitzhak, alors on l'appelle le fils d'Abraham. Vous allez prendre le verset. Attendez. C'était le verset. Le verset 12. Vele toldot Ishmael ben Abraham. Alors là, c'est clair. Alors voilà, maintenant il est ben Abraham. Vous y êtes? C'est clair?
Stop. Il y a aussi Ishmael ben Abraham.
Ishmael ben Ola.
Ça, c'est peut-être.
ça suffisait.
Traig et Shmuel
et Banak. Banak, absolument. Voilà. Mais c'est dans le même. C'est après que Yitzhak est avant Ishmael. C'est clair? Voilà. Quel avait-il? Parce que. Oui. Alors, si vous avez des questions sur, encore sur Ishmael et Yitzhak, vous le comprenez, c'est un problème d'étude considérable. Et je vous conseille, en tout cas, d'étudier ces choses-là, comme nous avons appris cette année, dans le Shlach, sur les parachutes de Torah Shabbat, dans le Shlach. Alors, vous avez énormément d'indications qui, bien sûr, sont données dans un style de Zohar. Hein, donc, il faut étudier les sources dans le Zohar. Mais il est bien évident que ce que Rashi nous indique de façon très succincte j'allais dire géniale, c'est même pas la peine de le dire, vous avez tout le contenu dans le chemin. Alors si vous avez des questions là-dessus, on les reprendra. Et puis le temps qui nous reste, je voudrais vous parler de versets analogues concernant la mort d'Isaac et le statut d'Ésaü, et nous verrons à quel point c'est le contraire, différent.
Le fait qu'actuellement, il y a une remise en cause sur la position des territoires, ou pas, est-ce que c'est le fait qu'on est descendu par rapport à ce qu'on était avant?
Non, mais écoutez, je vais vous dire. C'est pas à nouveau et c'est pas actuellement une remise en cause, c'est depuis le début. Au moment de la guerre des six jours, personne dans le personnel politique d'Israël ne voulait de ces territoires. Ils ont fait la guerre pour protéger les frontières de 67. Okay? On craignait une invasion des frontières de 67. Dans tout l'état-major et gouvernement israélien de ce temps-là, il n'y avait pas une idée de conquérir quoi que ce soit, de reconquérir ni même la ville de Jérusalem. Rien. Ça nous a été imposé. Vous rappelez, malgré nous, toujours malgré nous. Okay? Et vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir. Depuis le début, depuis le lendemain de la guerre des six jours, le gouvernement israélien cherchait à qui rendre. Il n'y a pas à qui rendre. Le vendu ne veut pas. C'est clair, vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas les rendre. Et on ne les rendra pas. Bon, il peut y avoir des hauts et des bas, okay? Mais quand un programme de cet ordre se met en place, c'est irréversible. Okay? On a attendu 2000 ans. Pendant 2000 ans, le bon Dieu était fâché avec nous. Il a fait la paix. Et c'est clair. Alors, quand le bon Dieu, je dis le bon Dieu, il ne faut jamais parler comme ça, c'est l'égoïque qui parle. Mais il ne faut pas dire le Dieu terrible. Commence à faire une mitzvah, on est tranquille, il ira jusqu'au bout. C'est clair. C'est les hommes qui ne savent pas achever les mitzvot. Mais lui, il n'y a pas de problème. Le bon Dieu ne joue pas au billet. Okay? Ah, il nous a ramenés, ce n'est pas pour jouer au billet. Et je pense que vous comprenez ce que je vous dis. Okay? Là-dessus, il y a une safek. À quel prix, ça dépend de nous. Okay? Et c'est dans ce malgré nous dont je disais tout à l'heure. Okay? Et ça se rattache à un thème extrêmement important. Tout nous est donné depuis l'origine. Vous avez d'un coup, et ensuite, mérite. Ça me l'est donné, c'est réversible. Et ensuite, il faut. Alors, ce n'est que les processus, non pas de régression, mais de progression. Dans l'exemple du Sinaï. D'un coup, on était en haut de la montagne, voilà, la Torah. Et après, tu redescends et tu remontes. C'est clair? Alors, toute notre histoire, c'est pas qu'on est redescendu du Sinaï, c'est qu'on remonte. C'est l'inverse. C'est la même. Est-ce que c'est clair, ça? Il est possible d'ailleurs qu'à partir de cette année, des événements d'un autre rythme, d'une autre accélération sur ces problèmes-là, entre autres, de son entraînement, se développent, parce que finalement on va rentrer dans la 40e année d'État d'Israël, Zelostam, et Abaim, Shana, Akut, Bedor, Omar, Amtoa et le Babahir, et après on va s'y changer. Là, c'est un grand privilège pour notre génération d'assister à ça. À Sukkot prochain, il va y avoir pour la première fois depuis 2000 ans la mitzvah de Hakel.
Mais aussi,
il y a
7 ans. Il y a eu un peu.
Un peu, mais il va y avoir une grande chose à l'échelle mondiale, d'ailleurs, mondiale vue, je veux dire. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la génération suivante. Vous allez prendre. On n'a pas eu le temps d'étudier toutes les données, donc ça va être très ponctuel. Alors, vous allez prendre le verset C'est le verset 5 du chapitre 28. Verset 5 du chapitre 28. Dans la fin de la paracha Toldot.